chronique du Cégep Édouard Montpetit.
7h34, on a de la visite ce matin de l'ENA. D'abord, Madame Michèle Rivet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur du côté, de l'ENA, donc en technique de maintien, de maintenance d'aéronefs.
Oui, c'est
voilà.
En plein ça.
J'ai de la misère à me le relire moi-même.
Oui,
et puis, Monsieur Robert, je vous êtes conseiller à la vie étudiante.
Exactement, bonjour.
On est ici d'abord pour parler, oui, de vie étudiante. On va en parler dans une deuxième partie de chronique, mais d'une course complètement folle. Quand j'ai lu ça ce matin, j'ai dit, quoi, une course dans le ciel et vous allez y participer, Madame Rivet.
Oui, alors c'est une compétition aérienne qui va se passer aux États-Unis. Ça ne s'adresse qu'à des femmes. C'est une première pour l'ENA. C'est une première pour Madeleine et moi-même.
Donc, une course en équipe.
Oui, c'est ça. Il faut être deux pilotes minimum. Ça prend des minimum d'heures aussi pour faire partie de cette course. Alors, ça va se passer au mois de juin. On doit se rendre. Alors, nous, on va avoir l'occasion d'utiliser un avion de l'École nationale d'aérotechnique parce qu'il y a un aéroclub. Et puis, nous allons quitter l'aéroport de Saint-Hubert en direction de Sweetwater au Texas.
OK.
Alors, c'est quand même pas mal d'heures pour se rendre là-bas. Alors, déjà au moins une semaine à l'avance, on va devoir vérifier la météo pour s'assurer qu'on va se rendre à temps. Rendu là-bas, il va y avoir 4 journées où on va devoir se préparer tout le monde parce qu'il y a quand même à peu près autour d'une 60aine d'équipes, 2 pilotes par avion minimum. Et par la suite, la course commence et là, on retraverse les États-Unis en direction du Maine.
Mais c'est complètement fou.
Oui.
Mais là, vous n'êtes pas tout le monde dans le ciel en même temps. Vous partez sur
non,
une ligne,
sûr,
puis let's go.
Non, bien
sûr,
on ne sort pas tout en même temps. Alors,
ça va être
les uns après les autres. Non, on oublie ça. Surtout qu'on va suivre le même trajet. Alors, ça va être la route des WASP, les Women Air Force Service Pilots. Alors, c'était lors de la Seconde Guerre mondiale où les femmes devaient convoyer les avions. Alors, ou les tester. Alors, on va suivre cette route, ce qui est vraiment spécial aussi.
C'est une première en ce qui concerne l'ENA.
Oui, c'est ça. C'est une première pour l'ENA.
Parce que ce n'est pas une première classique comme telle
qui
s'appelle.
Non, ça fait longtemps que ça existe.
La Air Race Classic,
oui,
hein, c'est comme ça que ça s'appelle.
Oui, c'est ça, exactement. Même Amelia Earhart en avait déjà fait partie.
OK.
Donc, ça fait très longtemps, effectivement, que cette course, cette compétition existe.
Donc, 4 jours à survoler les États-Unis.
Oui, c'est ça. Alors, avec, si je ne me trompe pas, 9 aéroports où on devra atterrir. Alors, on a, disons, un trajet, un atterrissage, un autre trajet, un atterrissage. Et ça va être comme ça pendant... par jour, là, ça va être 2 trajets.
Est-ce que c'est quelque chose qui s'apparente aux courses dans le désert un peu, où vous arrêtez, puis vous couchez où vous pouvez, puis il y a un campement? Comment ça fonctionne?
Oui, disons, je ne suis pas très au courant de ce qui se passait là, avec la Rose des Sables, je crois.
Oui, ce type
ça,
de course-là.
Ouais.
Ça fait partie de l'affaire. Là.
Ça ne sera pas aussi rock'n'roll que
okay.
pour ces femmes. Ça va être un petit peu différent. Alors, nous, par contre, en fait, c'est que ça va être... les avions vont être différents. Hein? Donc, il faut les 4 premiers jours, c'est-à-dire juste avant la compétition comme telle, il faut chaque avion, OK, avec chaque équipage, doit voler pour connaître les performances de l'avion.
OK.
Et puis, c'est à partir de ça qu'on va donner des points ou en enlever. Alors, si on sait qu'un avion va faire 100 km... par heure, là, je le mets en kilomètres parce que c'est plus simple pour tout le monde. Là. Puis vous avez 100 km à parcourir, vous savez que vous allez le faire en 1 heure. Sauf que pour un avion, vous devez tenir compte des vents. Il y a le cap. Alors, il y a beaucoup de calculs à faire.
C'est moins évident.
Oui, c'est ça, exactement.
Et là, votre équipe s'appelle les Demoiselles.
Oui, les Demoiselles.
A-I-L-E-S à la fin. Donc,
oui, en effet.
Et vous avez besoin de sous. Hein? Vous avez besoin de financement,
oui,
pour faire tout ça.
Tout à fait, oui, parce que c'est assez dispendieux. Il y a l'avion, bien sûr, et puis le carburant. On va coucher dans des hôtels à chaque aéroport.
Des 5 étoiles dans la majorité des cas, j'en suis convaincu.
Là, disons que ça, j'ai pas le détail de ça.
C'est moi qui s'occupe de ça, et oui, ça va être ça.
Ah bon!
Donc, besoin de beaucoup d'argent.
Oui, ouais, c'est ça, parce qu'un avion, au départ, c'est pas donné. Et puis le carburant, alors, oui, en partant, ça, c'est
donc, comment vous allez procéder? Il y a du financement ou vous allez, pour tout ça, les gens peuvent... Vous donnez,
oui,
un peu de sous, comment vous procédez?
Oui, bien ça, je vais laisser Pierre vous,
oui,
parler du financement.
Donc, ben, Robert,
il y a à peu près, disons, un premier 6 000 $ qu'on va solliciter les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes, mettons, près de la base de l'aéroport où ce qu'on est situé. Dans un deuxième temps, Madeleine et Michel sont en train de ramasser, dans le fond, ce qu'on appelle des 1000 aériens qu'on vend. 10 000 aériens, ça coûte 5 $, fait qu'on permet aux étudiants, à toute le personnel professionnel et non professionnel de l'École nationale de pouvoir les acheter. Ils ont déjà, ben Michel, je pense, en a vendu pas mal à toi tout seul, là, fait que... avec ça, on va ramasser à peu près 1 200 $. Puis le reste, ça va venir des partenaires qu'on a, donc la coopérative, la fondation, puis aussi l'association étudiante de l'École nationale. Fait que le montage financier est extrêmement, facile à mettre sur pied. Puis on a déjà un intérêt pour les compagnies aériennes.
Donc voilà. Puis donc vous pourrez avoir fort probablement le montant que vous désirez avoir
pour
cette course-là. Mmh. Donc rappelez les dates. À quelle date vous vous rendez au Texas?
C'est la course, proprement dite, c'est du 9 au 22 juin. Sauf que nous, bien sûr, il faut se rendre là-bas. C'est déjà très loin. Et il y a 4 journées où on doit préparer les équipages, les avions. Alors, on est parti pour à peu près 2 semaines, là, au moins.
Bon. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres pilotes qui vont participer à la course?
Non, en fait...
Au fil des ans, non?
Non, je connais personne. Alors, c'est vraiment une première.
On
une première
de 17
pour l'école,
à 90 ans, les pilotes. Ça se peut-tu, des pilotes de 90
écoutez,
ans?
Si vous avez votre licence, vous avez votre médical est bon, il n'y a rien qui empêche de faire partie de cette compétition.
Ben, on vous souhaite la meilleure des chances. Monsieur Robert, parlons maintenant de la vie étudiante. Il y a quelques semaines, on a reçu Fatine, qui était venue nous parler de la vie étudiante. Fatine, elle m'avait fasciné, pour ne pas faire deviner le jeu de mots. Je la trouvais articulée, c'était fascinant. Elle parlait d'une vie étudiante très, très particulière du côté de l'ENA.
Oui, grosso modo, moi, j'ai comme développé, on va appeler ça, mettons, un modèle d'affaires que j'applique sur chaque groupe étudiant. Donc, les étudiants, s'ils veulent, faire un projet, ben moi, je vais les appuyer là-dedans, je vais aller chercher du financement, puis je vais être en mesure de donner une plus-value au groupe étudiant. Exemple, on prend l'association étudiante. Bon, ben déjà, dès le départ, on les implique avec nous autres dans toutes nos activités dans lesquelles on va réaliser des projets. Fait qu'ils sont partie prenante pour la décision, pour le financement, pour les idées. S'ils veulent développer quelque chose, on prend leurs idées. Fait que ma philosophie, moi, c'est de... tout le temps donner une plus-value à chaque personne. Fait que donc, un étudiant qui passe d'un matricule, il a un nom, son nom, il devient quelqu'un, bien, cette personne-là, il est capable d'amener le projet lui-même le plus loin possible. Fait que j'ai à peu près une douzaine de groupes étudiants dans lesquels tout le monde se développe.
D'une participation, c'est quand même étonnant dans un cégep ou même une université. On parle de 50% des étudiants qui participent à la vie étudiante du côté de l'ENA.
Oui, c'est ça. C'est... dans le fond, la vie étudiante, on la divise en trois. On a ce qu'on appelle les groupes étudiants. On a aussi les activités sportives, puis aussi, mettons, la musique. Moi, j'étais à l'époque, j'étais moniteur de musique. Puis on avait développé, on avait acheté de l'équipement, etc. Fait que les étudiants qui veulent se partir un groupe de musique, on a tout ce qu'il faut. On a 2 batteries bien équipées, etc. T'sais. Fait que je pense que ça a été du travail de développement d'année en année. Puis les étudiants, souvent, ils nous le disent, on arrive de d'autres cégeps, et les autres cégeps, c'était pas comme ça. Ici, à l'ENA, c'est complètement capoté. L'autre affaire qui est le fun, c'est que il y a comme une promiscuité pédagogique avec les professeurs. Fait que si quelqu'un veut développer quelque chose, veut usiner de quoi, ben il va aller voir le professeur. Le professeur va dire, on peut t'aider, on a des techniciens.
À quoi c'est dû, ça? Parce que vous êtes un peu en retrait, vous n'êtes pas à l'intérieur même des murs du cégep?
On est carrément dans le milieu, là. Fait que c'est pour ça que je vous invite à venir, là, vous montrer comment ça marche.
Ben oui, il m'a donné toutes ces brochures.
Si
je passe dans le coin, j'irai. Oui, je vous appellerai.
Vous allez ressortir de là avec une...
On fera peut-être un petit quelque chose d'ailleurs, peut-être avec une chronique qui s'appelle Longueuil Curiosité. Ça serait peut-être intéressant à faire.
Venez me voir.
Mais donc, c'est vrai que c'est fabuleux la quantité d'activités qu'il y a à l'ENA. Il n'y a pas lieu de s'ennuyer là.
Beaucoup d'étudiants viennent de l'extérieur. Peut-être ceci explique cela parfois aussi.
Peut-être, oui, c'est vrai.
Donc, on veut recréer une vie étudiante, quelque chose de pas qu'on s'ennuie de papa puis maman, mais des fois, c'est peut-être ça aussi. Ça nous permet d'aller vers les autres aussi un petit peu plus.
Oui, c'est vrai, ça.
Donc, on parle aussi, on parle de l'aéroclub. C'est quoi ça exactement?
L'aéroclub, dans le fond, c'est parce que on sait, à l'école, finalement, on va préparer de futurs techniciens en maintenance d'aéronefs. Il y a ceux aussi qui vont être préparés pour aller à l'université éventuellement. Mais parmi toutes les activités, on a puisqu'on a toutes les installations, des appareils qui sont en état de navigabilité, qui permettent aux étudiants de pouvoir utiliser ces aéronefs-là à un prix moindre que s'ils allaient dans une autre école de pilotage. On ne donne pas l'initio, c'est-à-dire qu'on ne monte pas à piloter. Il faut que les étudiants sachent déjà piloter, mais une fois qu'ils ont leur licence, après ça, ils peuvent louer des appareils de l'ENA à un prix moindre que s'ils allaient dans une autre école. Ce qui est très bien, parce qu'on a toutes les installations, et puis ben, pour quelqu'un qui l'a, la licence, c'est sûr que c'est encourageant de continuer à voler.
Puis il y a aussi des compétitions internationales qui se rattachent à l'aéroclub ou à l'ENA comme tel, auquel participe l'ENA.
Non, pas vraiment.
C'est parle ici de l'avion Air Cargo.
Ah ouais, 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 ça c'est un autre projet. Ouais.
C'est un autre projet, ok.
Ça c'est un autre projet.
Je pensais que c'était une compétition internationale.
Oui, 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 okay. Ça c'en est une.
Donc, c'est pas une course.
Non, c'est pas une course. Ça,
moi,
c'est...
je suis dans la course, je suis tellement compétitif.
Mettons, si on parle justement d'avion cargo, c'est, imaginez-vous un prototype, là, mettons, un avion téléguidé d'une largeur d'aile à peu près de 10 pieds de large. Puis l'idée, c'est d'aller aux États-Unis. On s'est inscrit, on va compétitionner contre des États-Unis, contre des universités seulement. Puis l'idée, c'est qu'ils ont 200 pieds pour décoller. Ils vont faire un tour dans les airs. Il faut qu'ils réatterrissent. Puis chaque fois, il faut qu'ils remettent un peu plus de charge. Fait que donc, c'est pour ça que ça s'appelle un cargo. Puis l'idée, ils ont à peu près 5 rounds à faire. Ils volent dans les airs, ils atterrissent. Puis l'équipe, à peu près, qui lève le plus de poids possible.
Puis un club de drones aussi.
Ouais, ça...
ça, quand, c'est particulier.
Aussi, ça, c'est Roger Leblanc qui a... C'est un spécialiste dans les drones. Puis à un moment donné, nous, on a dit, bon, OK, Roger, on va développer dans ce projet-là. On a acheté à peu près 6 drones qui étaient toutes défaites. Fait que les étudiants, ils ont tous monté ça. Puis on a aussi des simulateurs de drones dans lesquels les étudiants vont être capables de se pratiquer pour aller voler.
Ben voilà. Ben merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup, M. Roberge. M. Pierre Roberge est conseiller à la vie étudiante. Et Michel Guivet est professeur en technique de maintenance d'aéronefs et grande, comment dire, on parle-tu d'une coureuse du ciel dorénavant? Une coureuse du ciel avec votre équipière. Rappelez-moi le nom de votre équipière.
Madeleine Ménard-Zapata.
Donc, qui nous écoute sans doute et qui va performer. J'en suis convaincu. Oui. On vous souhaite la meilleure des chances. Oui, mais surtout, amusez-vous dans toute cette affaire.
Merci beaucoup.
Voilà, 7h46, Pierre-Luc Lessard, avant l'aurore.